Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut, ça va?
Hello, vous écoutez Salut, ça va? Le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement.
Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés.
Rendez-vous sur techcare.co.
Bonne écoute!
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast Salut, ça va en solo. Aujourd'hui, je vais vous parler des petites choses, des petits outils, des pratiques qui m'aident quand je vais pas bien. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager tout ça et surtout de vous donner des pistes d'exploration. C'est toujours un peu le but ici, vous le savez, à force, mais de partager ces petites techniques, ces petites méthodes, ces astuces qui me permettent d'aller mieux. Et c'est intéressant, je trouve, au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des différentes introspections, quand on apprend à se connaître aussi bien au niveau de nos réactions que de nos émotions, que de nos humeurs, de savoir aussi quelle est notre boîte à outils et quels sont les outils dont on dispose quand on sent qu'on a un coup de moins bien. Et j'en parlais la dernière fois avec Samuel et je lui disais c'est assez étrange parce que j'ai l'impression que plus je m'intéresse à tous ces sujets-là, plus je suis dans une forme d'introspection, d'acceptation, de connaissance de moi-même, à me poser des questions, à essayer d'analyser ce qui peut se passer en moi, nommer des émotions, etc. Plus j'ai l'impression d'avoir des moments up and down, vraiment des hauts, des bas. Et en fait, je pense que c'est un peu un biais parce que je crois que finalement, avant, j'en avais tout autant, mais peut-être que je ne m'autorisais pas forcément à les identifier ou à mettre des mots dessus. Et je partais du principe que bah voilà, j'étais mal et que c'était comme ça et que de toute façon, il n'y avait rien à faire dans le côté un peu fataliste. Alors parfois, il y a juste rien à faire. On n'est pas obligé d'être dans la productivité pour absolument trouver des moyens d'aller mieux. Je parle d'évidemment quand c'est sur le court terme et que vous avez des petits moments de moins bien, hein, pas quand ça dure dans le temps et que c'est dans une intensité telle que ça vous empêche de vivre correctement. Mais là, je parle vraiment des petits coups de mou, quoi. Des petits moments où on se sent un peu bof. Voilà, et du coup, de développer autour de moi cette boîte à outils qui est une ressource, en fait, et dont je peux me servir quand j'en ai besoin, ça m'aide à voir les possibilités. Parce que ce qui est très caractéristique, je trouve, quand on a un coup de mou, un petit coup de déprime, c'est le manque d'horizon et d'espoir et justement cette étincelle qui nous dit « Allez, ça va aller !» Voilà, il y a vraiment ce côté où on a juste envie de se mettre sous une couette là pendant quelques heures et de se dire « Bon, réveillez-moi quand tout ça sera passé !» Et bah, des fois, c'est juste pas possible parce qu'on est amené à devoir remplir nos obligations, aller au travail, garder le contexte social, s'occuper de ses enfants, etc. Et avoir cette boîte à outils, c'est un support rassurant pour moi. Donc je me suis dit que partager mes outils pouvait peut-être vous donner envie de partager les vôtres aussi, vos petites choses qui vous font du bien quand ça va pas. Et peut-être ça vous donnera aussi l'envie de tester de nouvelles choses pour inclure toutes ces petits tips à votre boîte à outils, à vous. Voilà, des nouvelles cordes à votre arc. La première chose dont je voulais vous parler et qui va être assez en lien avec un sujet dont on parle pas mal sur Techcare en ce moment, puisque on a sorti un nouveau petit bébé dont on est très fiers. Franchement, ça a été un sacré projet, mais écoutez, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup aidé ces derniers temps, et c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous donner la possibilité de le pratiquer chez vous, pour vous. C'est le journaling. Alors, ce mot dérange beaucoup. On me dit non, mais c'est journaling, pourquoi on ne peut pas utiliser un mot français? Alors, je ne sais pas trop comment on pourrait franciser ça, parce que ce n'est pas un journal intime. Enfin, en tout cas, moi, je ne le vois pas comme un journal intime. Le journaling, c'est vraiment cette possibilité de déverser le contenu de son cerveau sur du papier, en mode papier-crayon, quoi. Et parfois, c'est hyper difficile de savoir par où commencer. C'est pour ça qu'avec Techcare, on a créé cet objet que je trouve assez incroyable, qui s'appelle Une page, un jour, carnet de journaling et d'introspection. Et l'idée, c'était de pouvoir vous guider justement dans cette pratique avec deux questions qui sont récurrentes chaque jour pendant un an. Hein. Le carnet peut vous durer un an, parce qu'il y a 365 pages. Et donc de pouvoir être guidé sur ces questions qui sont assez larges, mais qui permettent de déverser un petit peu ce qu'on peut avoir dans la tête à la fin d'une journée, à la fois ce qu'on a traversé en termes d'émotions, de rencontres, de réflexions, de pensées. Et puis une petite question introspective, le fait de d'écrire et de réfléchir, c'est un exercice qui moi m'a beaucoup aidé en fait à me défocaliser de certaines choses. Quand on a voilà, des pensées qui tournent un peu en boucle, etc., c'est parfois difficile d'aller ailleurs, d'emmener son esprit ailleurs, de laisser passer, juste d'observer ses pensées, etc. On entend beaucoup ça dans le dev perso. Moi, je trouve que c'est hyper dur, en fait, parce que quand on est focalisé sur quelque chose, bah, le cerveau, il n'a pas envie d'aller ailleurs. Et cette pratique-là, le fait de prendre un papier, un crayon, d'avoir ce côté physique, le toucher, le fait de pouvoir écrire des mots de façon plus guidée, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée à un moment où, justement, j'avais l'impression que je partais un peu dans tous les sens au niveau de ma tête. Et c'est pour ça que le journaling a été un peu une révélation pour moi cette année. Par contre, c'était important pour moi de ne pas m'imposer une récurrence absolue chaque jour, un nombre de mots, parce que je trouve ça contre-productif. On n'est pas tous les jours dans les mêmes dispositions et c'est parfois difficile de juste prendre le pli de réfléchir à certaines choses quand juste on n'est pas disposé à le faire. Et un outil ne doit pas devenir une contrainte. Ces outils-là, ils sont comme quand vous avez besoin d'installer une étagère, vous allez prendre un marteau, des clous, au même titre que vous ne prenez pas les mêmes outils quand vous avez besoin de tondre la pelouse. C'est exactement pareil. Face à certaines situations, vous n'allez pas vous servir des mêmes outils. Parfois, vous aurez envie d'écrire et l'écriture vous fera du bien. Parfois, pas du tout. Et c'est totalement OK. Donc, l'idée avec Take Care, c'était de pouvoir justement développer cet objet sans injonction à devoir tenir absolument un carnet chaque jour. C'est pour ça qu'on ne l'a pas appelé un jour une page, mais qu'on l'a appelé une page un jour. C'est-à-dire qu'une page correspond à un jour, mais c'est le jour que vous choisissez. Et ça peut vous durer un an, mais si vous en faites une fois sur deux, ça vous durera deux ans. Voilà, donc c'était l'idée et c'était important pour moi d'en parler ici dans les outils qui m'ont aidé parce que vraiment, ça a été un peu une révélation. J'ai toujours eu du mal à tenir les carnets de gratitude, ce genre de choses, parce que c'était trop répétitif pour moi. Et là, l'idée de faire une page chaque jour différente avec des questions un peu guidées, je sens que ça me correspondait davantage et j'espère que ça pourra aussi résonner en vous d'une certaine façon. Donc voilà pour ce premier outil. Le deuxième outil qui est bien connu, mais que j'avais envie d'inclure ici pour vous partager ma vision de la chose, la chose qui n'est rien d'autre que la méditation. Voilà, j'avais envie de vous parler de la méditation et de comment est-ce que j'arrive à l'inclure dans mon quotidien, peut-être un peu différemment que ce qui est présenté de façon mainstream sur les réseaux et dans les livres de dev perso. La méditation, moi j'ai souvent eu ce truc de me dire « mais en fait, je n'y arrive pas ». Il y a vraiment ce truc-là de « je ne sais pas faire ». C'est trop difficile pour moi. Quand je me pose et que je me dis « voilà, je vais lâcher prise et ne plus penser, etc. etc. », je pense à tout sauf à rien. Je pense à ma liste de courses, je pense à tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Je suis vraiment dans un truc de cerveau qui est rempli. Et en fait, je suis culpabilisée de ne pas réussir à être dans ce silence et dans l'immobilité et tout. Et en fait, ça m'angoissait. Moi, j'avais besoin de bouger, etc. Et j'en parlais justement avec ma psy, puisque j'ai entrepris une thérapie là dernièrement et j'aurai l'occasion peut-être d'en parler dans un autre épisode, mais on parlait de ça. Et je lui disais, c'est vrai qu'au début, bon, je vous parle de ça il y a quelques années quand même, hein, j'avais vraiment cette difficulté à engager la méditation en fait, et à engager cette immobilité, cette respiration dans le silence, à ne pas bouger, etc. C'était vraiment difficile pour moi, c'était même douloureux parfois. Et petit à petit, avec les années, quand je me suis ouvert à d'autres discours à ce sujet, je me suis dit qu'en fait, la méditation, c'était avant tout quelque chose qui devait me faire du bien. Certainement pas quelque chose qui devait me faire souffrir. Parce que entre se faire du bien et se faire souffrir, il y a un domaine qui est assez large, qui est l'inconfort. L'inconfort, c'est OK. Parce qu'encore une fois, quand on commence quelque chose, c'est très courant et c'est très normal d'être dans l'inconfort. Le cerveau déteste l'inconnu, donc chaque petit changement, chaque nouveauté, chaque activité nouvelle peut amener de l'inconfort, mais ça ne doit pas être douloureux, ça ne doit pas être quelque chose qui soit réellement dérangeant pour vous. Et donc c'était un peu ma philosophie de me dire, ok, ça peut être inconfortable, mais ça doit pas être douloureux. Donc j'ai commencé à écouter notamment des personnes comme Fabrice Midal parler de la méditation. Il a un livre qui s'appelle « Foutez-vous la paix et commencez à vivre » qui est très intéressant à ce sujet et qui dit, mais en fait, On a voulu rendre la méditation élitiste, au même titre que le yoga, à un moment donné, était élitiste. C'est-à-dire cette idée qu'en fait, à moins d'être dans une perfection et d'incarner tous les préceptes qui sont présentés, on n'aurait pas la légitimité de le faire et de le pratiquer. Or, la méditation, ça peut être quelque chose d'actif. Moi, je sais que j'ai besoin d'avoir des méditations guidées parfois, avec des voix qui m'emmènent dans des pensées. Et parfois, je me rends compte que je pense à ma liste de courses et à des choses qui sont complètement contraires à tout ce que j'aurais pu penser il y a quelques années en me disant « Mais non, tu n'as pas le droit d'avoir des pensées parasites, etc. » Mais en fait, le cerveau ne peut pas être sur pause, donc c'est normal d'avoir des pensées. Et bien, si c'est ma liste de courses, c'est ma liste de courses. Et j'essaye juste de me détacher de ça et de ne pas y porter de jugement, de ne pas culpabiliser, d'être dans la réussite ou l'échec, de ne pas apposer d'étiquette sur ce qui est en train de se passer, simplement j'essaye de laisser passer. Et parfois, je suis dans un tel état d'énervement, d'excitation, parfois de stress, que même la méditation guidée immobile, c'est impossible pour moi. Et dans ces cas-là, je prends mes baskets, mon manteau et je vais faire un tour dehors. Et la méditation, elle peut passer aussi par des activités méditatives, entre guillemets. Ça peut parfois être le yoga, ça peut être la peinture, ça peut être le coloriage, ça peut être une balade en forêt. Vous avez le droit de vous approprier ces outils-là. Et simplement, la méditation, c'est un moyen, à un moment donné, de s'entraîner à se détacher parfois du flot de pensée qui peut être envahissant. Mais ça ne veut pas dire être dans le noir, immobile, à ne rien penser du tout, et de trouver des nuances et surtout d'adapter cette pratique et cet outil à vous, c'est primordial. Parfois, moi, ça m'arrive de faire 5 minutes de méditation guidée dans ma voiture, sur le parking, avant d'aller au bureau, en me disant, ça me permet de mettre une respiration dans ma journée et de me détacher de choses qui peuvent être parfois envahissante et de le faire sans jugement, ni sur l'efficacité que ça va avoir, ni sur la façon dont je vais décider de méditer. Je l'adapte à moi et c'est OK. Et ça fait partie de ma boîte à outils, mais il est hors de question que ça devienne quelque chose de douloureux. Donc voilà, c'était le mot nécessaire pour moi à ce sujet parce que j'en ai un peu marre des injonctions à ce niveau-là et je trouve que dans le développement personnel, on commence à en avoir de plus en plus. Alors même qu'on essaye de parler de santé mentale et de se détacher de justement tout ce qu'on a pu entendre pendant des années, il ne faudrait pas tomber dans le truc inverse. Donc vous avez le droit d'adapter vos outils à vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. La troisième chose, c'est l'exercice physique. Alors je vous avoue que c'est un outil que je sors rarement. Je ne suis pas une très grande sportive. Je sais que Samuel, par exemple, c'est quelqu'un qui a besoin de se dépenser dans le sens vraiment physique du terme, le rugby, la course, le côté vraiment j'ai besoin de me sentir épuisée. Moi, pas du tout. C'est pas du tout un truc qui va m'apporter du bien-être ou qui va m'aider à ce moment-là. Par contre, le mouvement est essentiel et je m'en rends compte de plus en plus au fil des années. Et j'ai arrêté d'associer l'exercice physique à la performance et au côté transpiration, cardio, minceur, fitness et toute cette image-là qu'on nous a véhiculée pendant des années. Et j'essaye de lier maintenant l'exercice physique au mouvement. Et simplement de me dire bouger mon corps, prendre conscience de mes muscles, m'étirer, prendre la mesure de mon ancrage aussi sur terre, d'être dans une espèce de pleine conscience de tous mes membres, de tout ce qui constitue mon corps, du sang qui coule à l'intérieur de mes veines, de la respiration, de tout ça. Et juste cette prise de conscience physique, elle passe parfois par un mouvement qui est très lent. Ça peut être du yoga, ça peut être de la marche, ça peut être de la danse, ça peut être simplement des étirements, du pilates, des choses qui sont très douces, mais qui permettent à un moment donné d'évacuer aussi autrement. Moi, je suis une personne qui, quand elle vit des moments difficiles, quand j'ai du stress, de l'anxiété, etc., ça se traduit complètement au niveau de mon corps. C'est-à-dire que viscéralement, au niveau de mes intestins, de ma tête, de mon cœur, j'ai des paramètres physiques qui se déclenchent plus ou moins de façon intense en fonction de ce que je suis en train de vivre. Et c'est totalement normal, hein, je veux dire, le corps réagit. On le voit bien même quand on stresse, quand on est anxieux. Il y a des phénomènes physiques qui se passent. Et bien, cet outil du mouvement et de l'activité physique est un outil qui, je le sens, est très précieux dans ces moments-là parce que ça me permet d'évacuer d'une certaine façon, autre que par les pensées, par l'activité cérébrale. En fait, ce mouvement-là, il vient appuyer, il vient aider tous les exercices autres que je pourrais faire, comme la méditation, comme le journaling, comme d'autres choses dont on va parler. C'est une aide précieuse qui va venir en lien et en complément. Et c'est un outil aujourd'hui que j'utilise de plus en plus et j'arrive à identifier quand j'en ai de plus en plus besoin. Ça peut passer aussi par le lien avec la nature et c'est le quatrième outil de ma boîte à outils. Le lien avec la nature, il est primordial pour moi. Parfois, dans les journées, j'ai juste besoin de sentir le vent, de sentir un rayon de soleil, d'être dans un univers où je me sens entourée d'êtres vivants. Ça fait un peu voyage de Chihiro comme ça. Je sais pas, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais sans partir dans un truc trop spirituel et mystique, etc. Je sens à quel point la nature me fait du bien. Et le pas vers la nature est parfois difficile, c'est-à-dire que je suis dans mon confort, je suis dans mon lit, j'ai plutôt tendance à être renfermée sur moi-même, etc. Et je vois par la fenêtre qu'il fait beau, que le temps est bon et que la nature est juste à deux pas. Et ce pas-là, parfois, justement, pour aller me balader ou juste être dans mon jardin à prendre le soleil, il est parfois hyper difficile de sortir un peu de sa grotte, mais les bienfaits sont fous. Et ça paraît pas si incroyable que ça, dans le sens où, si on réfléchit un peu à nos ancêtres et à notre constitution en tant que...
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Qu'être humain, ça paraît normal que la nature soit importante pour nous et fasse du bien, etc. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément ce réflexe avant. J'avais tendance à me dire que les outils plus cérébraux, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je pense que vous comprenez de quoi je veux parler, étaient davantage efficaces. Et on en revient toujours à ce truc de productivité, hein, où même quand on va pas bien, on se dit il faut trouver le truc le plus efficace pour aller mieux. Eh ben non, en fait, parfois, juste simplement prendre ce qu'il y a à portée de main et être en lien avec la nature, prendre cette pause et surtout se détacher des stimulations. Parce que être dans la nature, c'est aussi ne pas être devant des écrans, c'est ne pas être sollicité par de la publicité, par du bruit, par d'autres personnes. Et ce calme, en fait, cette sérénité, elle est hyper, hyper bénéfique, à mon sens. En tout cas, pour moi, c'est un outil précieux. Et j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Quel est votre rapport à tout ça? Est-ce que c'est pas forcément un outil qui vous paraît pertinent pour vous? Est-ce qu'au contraire, c'est indispensable et vous avez vraiment besoin de ces moments de ressources dans la nature? Moi, c'est en tout cas un outil que j'apprends à explorer de plus en plus et qui est vraiment étonnant. Le pouvoir de 25 minutes dans la nature, parfois, ça m'étonne encore. C'est-à-dire que je pars sans trop d'idées et de projections et d'espoir. Et en fait, je me rends compte que c'est juste beaucoup plus bénéfique que tout ce que j'aurais pu imaginer. Et ça me ressource. Il y a vraiment ce côté-là de réservoir qui se remplit. Et ouais, ce lien-là, il est hyper important pour moi à entretenir. Donc, il fait clairement partie de ma boîte à outils. Le cinquième point que je voulais aborder, c'est les pauses. Le fait de prendre des pauses, de prendre le temps de s'arrêter plus régulièrement. Et notamment dans les journées où on a l'impression d'être surmené. J'en parlais dans l'épisode « Ne rien faire, c'est productif ». À quel point on sous-estime les moments de rien. Et les moments de pause et les moments où on se détache de tout ce qu'on a à faire et de cette charge mentale en fait. Et on a l'impression que prendre une pause va nous mettre en retard et donc accentuer ce surmenage et nous mettre vraiment dans une position inconfortable où on culpabilise de ne pas avoir réussi à faire autant qu'on aurait voulu, etc. etc. Et c'est un cercle vicieux parce que parfois, s'extraire, se défocaliser, prendre le temps de faire quelque chose qui nous fait du bien, qui nous nourrit, va tellement être un point de ressource important à ce moment-là, que c'est une énergie nouvelle qui va permettre justement de prioriser les tâches à venir, de faire des tâches une à la fois et de plus être dans une multitasking qui est complètement contre-productif. Faire des pauses, ça permet à un moment donné de s'extraire d'une réalité pour être dans une autre. Je m'explique ce que je voulais vous dire, Léa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu pars trop loin. Mais l'idée, c'est de se dire que quand on est focus sur toutes les choses qu'on a à faire et qu'on a cette liste de choses en tête ou devant les yeux et qu'on est dans une boucle infernale de terminer une tâche et de se dire « mais je ne termine pas assez vite, j'aurai jamais fini, c'est trop lent, il y a d'autres tâches qui viennent se rajouter, etc. etc. » On est dans une réalité qui, bah, clairement, est en train d'entraîner notre cerveau à se dire que on galère et que c'est difficile et qu'il y a du stress et ça vient bloquer beaucoup de choses parce que le cerveau sous stress n'est pas le même cerveau quand il est dans une sérénité ou un apaisement. Bon, ça c'est normal, le stress c'est normal d'en ressortir, c'est pas quelque chose de mauvais, ça a certainement permis à nos ancêtres de survivre dans plein de situations, mais parfois le stress c'est aussi inadapté. Et l'idée c'est de se dire, ok, quand on s'extrait de la réalité, de ce qu'on est en train de vivre sur son bureau, à regarder toutes les tâches qu'on a à faire, ou dans sa cuisine ou dans son salon à se dire mais je ne vais jamais arriver à tout gérer et parce que c'est hyper difficile et que la charge mentale est une réalité. Parfois s'extraire 5 minutes, ça peut être aller dehors, ça peut être écouter une musique qui nous fait du bien, ça peut être poser son téléphone, boire un thé, boire une boisson chaude. C'est une respiration qui peut nous permettre de sortir de tout ça et de revenir dans la réalité de la productivité avec une vision différente et avec un souffle nouveau. Et parfois, ça fait vraiment du bien. Faites le test, essayez. Peut-être que pour vous, ça ne fonctionnera pas. Mais vraiment, pour quelqu'un qui, comme moi, a une facilité quand même à être surmené parce que j'ai beaucoup de choses à ma charge et que c'est dans ma personnalité de vouloir faire beaucoup et d'être un petit peu tout le temps dans ce côté action, et ben c'est un exercice qui n'est pas facile, qui est clairement inconfortable pour le coup, mais qui permet par la suite de se réinvestir différemment dans ce qu'on a à faire, d'apporter du soin en fait, de s'apporter du soin. Et les pauses sont autant à valoriser que les moments de productivité. Et là-dessus, je vous invite vraiment à écouter l'épisode « Ne rien faire, c'est productif » parce que c'est ce dont on parle et je sais que j'avais eu beaucoup de retours à ce sujet. Mais c'est clairement un outil qu'il ne faut pas négliger, ces moments de pause. Ils sont essentiels pour justement continuer à être dans l'action et continuer à être dans l'efficacité. Donc, clairement un outil à essayer et à tester. Et parfois, ils sont inconfortables. Parfois, c'est difficile de s'accorder ces moments, mais ils sont bénéfiques. Et sur le long terme, plus on va prendre l'habitude de le faire, plus ce sera facile de le faire et plus ça deviendra une nécessité. Dans ma boîte à outils, j'ai aussi un outil autour des respirations et de la respiration. Voilà, je vous ai fait une respiration pour vous entraîner à respirer. On prend tellement peu le temps de respirer. À la fois une respiration consciente et pourtant la respiration, je veux dire, c'est quelque chose qui nous accompagne tout au long de la journée, hein, on peut le dire, hein, sinon on ne serait pas là pour en parler. Donc on respire naturellement, le corps respire, mais respirer en conscience, c'est une autre démarche et c'est une autre prise de conscience, surtout dans les moments où on ne se sent pas bien, de se focaliser sur cette respiration et parfois sur des techniques de respiration qui peuvent aider à justement venir apaiser un stress, une anxiété. Il y en a différentes. Moi, je vais vous parler de celles que je connais et que j'aime beaucoup. Il y a la respiration abdominale. Hein, donc, on s'assoit, on place sa main sur son ventre, on inspire lentement par le nez. On sent que le ventre se gonfle et on expire par la bouche. Et on sent son ventre se dégonfler. Et ça, c'est la respiration que je trouve qu'on connaît le plus et que pourtant, on pratique peu. Mais parfois qui est juste bénéfique et très efficace et qui ne demande pas beaucoup d'entraînement. Là-dessus, vous pouvez le faire assez facilement. Il y a ensuite la cohérence cardiaque dont on parle beaucoup dans le programme de Coaching Take Care et on vous explique quels sont les bénéfices, comment l'utiliser. Et vous avez votre petite vidéo démo qui peut vous accompagner partout quand vous en avez besoin. C'est une technique de respiration en fait, qui synchronise la respiration avec les battements du cœur pour réduire le stress. C'est-à-dire que ça se base sur la science de la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc si vous voulez faire vos petites recherches, vous pouvez le faire. Et dans le coaching, on en parle de façon plus détaillée. Mais ça permet de respirer lentement et profondément, en fait, à vraiment un rythme régulier. Et ça va permettre de concentrer notre esprit, notamment sur cette respiration très régulière, qui au début peut être difficile à appréhender. On n'a pas du tout l'habitude de respirer comme ça, mais qui est un outil qui est tellement, tellement efficace pour revenir à un état d'apaisement quand il y a du stress et quand il y a trop d'anxiété. Vraiment, c'est une superbe technique de respiration. La dernière dont je voulais vous parler, il y en a d'autres, hein, mais je vous parle vraiment de celle que j'utilise et je vous invite à aller faire vos petites recherches. Et si jamais vous en utilisez d'autres, n'hésitez pas à me le partager, c'est toujours hyper intéressant. C'est la respiration carrée. Donc l'idée, c'est vraiment d'inspirer en comptant jusqu'à 4, d'expirer en comptant jusqu'à 4 et de retenir la respiration en comptant jusqu'à 4 avant de répéter. Et vraiment de faire cette technique du carré, en fait. Donc j'inspire, je retiens, j'expire, je retiens, j'inspire, je retiens, j'expire, je retiens, etc. Ça m'aide beaucoup, moi, quand j'ai du mal à me concentrer sur autre chose, à me focus, à me défocaliser de certaines pensées justement pour me refocaliser sur quelque chose de plus doux, de plus apaisé, etc. Cette respiration m'aide beaucoup. Et voilà, c'est un outil qui est clairement pas à négliger. La respiration, ça fait partie du bien-être mental, mais aussi physique. Et on a encore une fois cet esprit du lien entre ce qui peut se passer dans notre tête et ce qui se passe dans notre corps, et d'évacuer par la respiration beaucoup de choses, des tensions, etc. Avant de dormir, dans les moments stressants, avant un oral, avant une situation qui vous paraît difficile à surmonter, etc. La respiration est un outil, mais hyper précieux. Dans ma boîte à outils, il y a aussi un autre paramètre, c'est le sommeil. Et celui-ci, je dirais que c'est l'outil que je maîtrise le moins et que j'essaye de maîtriser de plus en plus, c'est la bonne hygiène de sommeil. Je me rends compte à quel point dormir et le repos, et ça on en a parlé dans un autre épisode, est primordial en fait. Et à quel point je néglige parfois mon hygiène de sommeil, et je me rends compte quand je traverse un moment difficile, je me retourne un peu sur mes habitudes de vie, sur mon hygiène de vie, et ce qui revient tout le temps, c'est l'alimentation et le sommeil. Et à partir du moment où je ne suis pas dans une certaine forme de constance ou un rythme régulier, une hygiène de vie correcte à ce niveau-là, je sens que ça a des répercussions sur mon mental. Et il y a plein d'études qui ont prouvé que c'était effectif, hein, et que concrètement, à la fois l'alimentation et à la fois le sommeil, l'hygiène du sommeil, eh ben, sont totalement liées avec beaucoup de pathologies et de mal-être au niveau de la santé physique, mais aussi mentale. Donc là-dessus, je ne vais pas me permettre de vous donner des conseils, parce que je suis pas hyper encore au point, mais c'est clairement un outil que j'ai identifié déjà et que je sais à quel point il peut avoir un impact. Donc j'essaye de mettre des choses en place, et quand j'aurai trouvé des petits tips, des petites astuces et la bonne façon de faire, je vous ferai certainement un épisode sur le sujet. Mais le sommeil, on peut pas le nier, ça fait partie du bien-être, et c'est un outil, c'est même plus qu'un outil pour le coup, c'est indispensable. Je veux dire, si on ne dort pas, on devient fou. Donc clairement, l'hygiène du sommeil, c'est en tout cas un paramètre très important que j'inclus complètement dans cette notion de bien-être et de mieux aller. Évidemment, je ne peux pas parler d'outils et de ressources quand on va pas bien sans parler de l'entourage et des personnes qui nous font du bien, des personnes ressources, ces personnes qui vont être à l'écoute, qui vont pas forcément vous donner des conseils ou voilà, mais juste être dans une écoute active, une bienveillance, qui vont accueillir ce que vous pouvez être en train de ressentir. Ces personnes-là qui vous font du bien, qui vous portent, celles-ci, elles sont précieuses. Voilà, c'est des relations précieuses et qui sont parfois importantes dans les moments difficiles et qui sont clairement difficiles à solliciter quand on va pas bien, parce qu'on a parfois ces pensées de culpabilité en se disant « Oh, mais je vais l'embêter, il a d'autres choses à faire ou elle a d'autres choses à faire. Voilà, que s'occuper de moi, et puis il y a pire que moi, et je vais pas encore l'embêter avec mes histoires, etc. » Mais clairement, les moments où on va pas bien sont les moments aussi où on a besoin de soutien. Et ce soutien-là, s'il est pas là dans ces moments-là, alors quand est-ce qu'il est ? Je veux dire, on est proche et on a des amis, on a de la famille, on a des personnes, des compagnons, des compagnes qui sont là pour le meilleur et pour le pire. C'est un peu la phrase bateau, mais l'idée, c'est de se dire qu'on n'investit pas seulement ses relations quand ça va bien. Sinon, ça crée un déséquilibre qui n'est pas forcément très sain. Et d'avoir des personnes ressources autour de soi, dans sa grande boîte à outils, quand on va pas bien, et de savoir qu'on peut juste envoyer un message en disant ça va pas bien, est-ce qu'on peut s'appeler, est-ce qu'on peut avoir une petite discussion, parfois c'est un échange de textos, parfois c'est juste une petite sortie, sans forcément devoir parler de ce qui va pas, et c'est ok hein, de pas se sentir forcément à l'aise d'entamer ces discussions, mais juste une présence parfois peut être un soutien, une ressource. Et personnellement, ça fait complètement partie de ma boîte à outils, et j'essaye de plus en plus d'accepter d'être dans cette vulnérabilité, de dire c'est ok parfois de pas bien aller, et la vulnérabilité n'est pas de la faiblesse. Et quand on a des personnes qui sont à nos côtés, elles peuvent aussi accueillir ces moments de moins bien. Donc voilà, outil précieux de cette boîte à outils. Évidemment, je termine par une des choses qui est le plus important pour moi dans ma boîte à outils, c'est le temps qu'on s'accorde pour soi. Et je vais aller plus loin que ça, parce que je pense que le temps pour soi, c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé, notamment dans le podcast. Le temps pour soi planifié, c'est-à-dire réellement dans son planning, dans son agenda, se planifier des moments pour soi. Pas forcément seul, si on n'a pas envie de passer des moments seul. Ça peut être d'être en couple, ça peut être d'être avec des amis, ça peut être peu importe ce qui vous fait du bien. Mais de se créer des moments et de se dédier des moments et des plages de temps pour vous, c'est primordial. Quand on a du mal à justement se dédier du temps et valoriser les moments où on prend soin de soi, Le fait de le planifier, de se créer du temps, ça permet d'installer déjà une récurrence, une routine et une certaine forme de discipline. Je vous invite à écouter l'épisode justement à ce sujet sur motivation et discipline. Ça peut passer par des toutes petites choses, mais le fait qu'elles soient récurrentes, ça va rentrer dans une certaine forme de routine et ça vous entraîne au fur et à mesure à créer ces moments pour vous, à prendre soin de vous, à valoriser ces moments-là, à les chérir, à les rallonger parfois, à les intensifier quand vous en avez besoin. Et c'est dans les moments qui seront les plus difficiles qu'ils seront encore plus précieux parce qu'ils seront planifiés, ils seront dans votre emploi du temps au même titre et à la même échelle de valeur que d'aller chez le dentiste, que d'aller faire vos courses, que de vous occuper de votre enfant. Voilà, c'est des moments où vous êtes dédié à vous-même, peu importe ce qui arrive, et parfois ce n'est pas forcément des grandes choses. On n'est pas obligé de faire des activités pour soi, pas besoin d'aller au cinéma, pas besoin d'aller dans un spa, pas besoin de faire un voyage à chaque moment pour soi, sinon ça peut paraître un petit peu difficile à envisager chaque semaine ou chaque mois, mais ce sont des petits moments parfois de rien, des petits moments de sieste, de méditation, d'écoute de podcast, d'écoute de musique, une bonne douche. Moi je sais que ma douche du dimanche, c'est un moment qui est planifié, auquel je tiens énormément, et ça passe par des trucs qui peuvent être parfois très futiles pour les autres, à savoir prendre une douche, se faire un gommage, se faire un masque, appliquer ses crèmes, etc. Mais peu importe ce que pensent les autres, si c'est ce qui vous ressource, moi, prendre ce temps-là, être dans une atmosphère restreinte et confinée, donc ma salle de bain, avec une lumière tamisée, une musique qui me fait du bien, la chaleur, ce sont des éléments tellement réconfortants pour moi que ce moment et cette douche-là, même si je ne fais rien de productif, même si je suis juste en train de prendre une douche et de m'appliquer mes crèmes et mes gommages, etc., c'est un moment qui est planifié pour moi et que je chéris et qui, même dans les moments qui sont difficiles, dans les moments où il y a du moins bien, je sais que j'ai ce moment-là. Et au début, j'y vais parfois à reculons parce que je me dis, bon, est-ce que vraiment là, j'en ai besoin, j'en ai envie? Et en fait, une fois que j'y suis, eh ben, sans surprise, ça me fait beaucoup de bien. Et donc voilà, ces petits moments, je pense que c'est un outil extrêmement précieux et puissant qui peut permettre, dans les moments justement de moins bien, de s'accorder du temps, quoi qu'il arrive, et de se faire passer aussi en priorité. Voilà pour cet épisode sur ces choses qui me font du bien quand je vais pas bien. J'espère que ça aura résonné en vous d'une certaine façon. Encore une fois, ma boîte à outils est personnelle et n'est pas forcément en résonance avec la vôtre. L'idée, c'est de partager autour de tout ça et je serais ravie d'avoir la connaissance de vos outils, de ce qui vous aide, vous, au quotidien, à aller mieux quand vous avez des moments de moins bien. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau podcast. Salut.
Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co. À la semaine prochaine.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.